Donc, je vais vous présenter le rapport de notation budgétaire. Donc, je pense, il reste que les conseillers de la majorité, mais au moins les conseillers de la majorité en commission finance avaient posé des questions. L'opposition, elle n'a posé aucune question en commission finance. Donc, au conseil, ce sera la même chose. Donc, je vais vous présenter de manière concise et rapide le débat de notation budgétaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous parler du contexte national et international. Donc la croissance mondiale devrait en 2018 redémarrer. Dans la zone euro, le taux de chômage devrait rester inférieur à 9%. Donc il y a une reprise au niveau international et au niveau européen. Il y a quand même certaines incertitudes, notamment dans la politique américaine. On le voit tous les jours avec les décisions du président Trump. Il y a également des incertitudes au niveau du Brexit et de la politique allemande avec la nouvelle coalition et la politique italienne où le gouvernement n'est toujours pas formé et où il y a de fortes inquiétudes européennes. Donc au niveau de la politique nationale, la croissance en 2017, les prévisions ne sont pas encore précises, mais on serait sur 1,9 en 2017, un taux de chômage qui avoisinerait aussi les 9% et un déficit public inférieur à 3%. Pour cette année, il y a un retour de l'inflation qui est annoncé, une dette publique en 2017 qui dépasse les 98%. Cette dette pourrait d'ailleurs diminuer en pourcentage, mais pas en valeur. Comment on fait cela? Simplement parce qu'en fait, l'INSEE et le gouvernement ont décidé de comptabiliser le trafic de drogue dans la richesse nationale. Donc en fait, on est en train d'autoriser le crime, on légalise le crime dans la richesse nationale. Quel exemple. On a donc, vous savez qu'on a changé de président de la République et de gouvernement l'année dernière, donc il y a des influences sur notre commune. Donc nous avons eu une bonne nouvelle, c'est la fin des temps d'activité périscolaire. Donc nous n'avions plus les ressources humaines pour assumer ces temps. On l'avait dit en conseil d'école avec M. le maire ainsi qu'avec M. Walrand. On a une nouvelle plutôt satisfaisante, c'est-à-dire la fin de la baisse de la DGF, mais la fin de la baisse, ce n'est pas une augmentation, c'est une stabilisation. On est sur une stabilisation de la DGF. On a une nouvelle inquiétante, qui est la réforme de la taxe d'habitation. Non pas parce que des ménages seront exonérés, mais parce qu'on ne sait pas à l'avenir comment celle-ci sera compensée et après 2020, comment cela se fera. D'autres contraintes pèsent pour les plus grandes collectivités, un resserrement de l'endettement et une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas dépasser 1,1% au niveau du bloc communal. Mais je rassure les membres de l'Union, du groupe de l'Union pour l'Issoie, nous ne sommes pas tenus par ces obligations, mais nous y tiendrons parce que nous y tenons depuis 2014, c'est-à-dire ne pas augmenter la dette de manière importante et aussi maîtriser les dépenses. Donc concernant la commune, le contexte socio-économique, nous avons une hausse des demandeurs d'emploi en catégorie A de 2,3% sur une année. Il est à noter, mais il est surtout à noter qu'il y a une baisse des chômeurs de moins de 25 ans. C'est une très bonne nouvelle. Ensuite, nous avons une baisse des demandes et des attributions. Donc, par contre, on a une baisse de demande et une baisse d'attribution des aides délivrées par le CCAS. Donc, ça veut dire qu'on a une population qui est dans une situation de moins grande fragilité. Et je pense que tous les membres du conseil municipal peuvent se réjouir de cette nouvelle. Nous avons aussi 5 667 logements, dont 1354 logements sociaux sur la commune, soit 23,85%. Au dernier comptage, et on sera en passe de tenir l'engagement des 25% de logements sociaux pour 2025, il me semble. Donc, après avoir posé brièvement le contexte global, je vais plutôt vous présenter les finances, ce que ça va donner sur le budget de la ville. Mais d'abord, je vais vous faire un petit focus sur la taxe d'habitation. Donc, la volonté du gouvernement, c'est de faire et d'exonérer 80% des ménages. Sur l'IS, on serait à 83%. En 2020. Donc avec un abattement de 30% pour les ménages en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020. Donc l'État s'est engagé dans un premier temps à compenser les communes, ce qui correspond chez nous à 3812 foyers fiscaux. Mais, je ne sais pas si vous avez vu la presse, dont le Figaro, il y a quelques jours, ce journal indiquait que la taxe foncière pourrait capter l'exonération de la taxe d'habitation. Donc les propriétaires vont sans doute devoir mettre la main au pot. Ainsi, l'État transférera la charge de la taxe d'habitation sur un autre impôt. C'est un simple transfert, c'est un jeu d'écriture. Donc concernant nos recettes, donc il y a un tableau qui vous est présenté et concernant les dotations. Elles sont en diminution depuis 2013 et celles-ci ne devraient pas augmenter cette année. Elles devraient même diminuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mesure perverse qui a été faite par le gouvernement, qui est honteuse, c'est la suppression des contrats aidés. Ensuite, on a aussi la diminution des compensations fiscales qui avait été décidée sur les taxes d'habitation, sur les taxes foncières auparavant. Et donc, chaque année, il y a un dégrèvement qui est fait et une majoration. Donc, on a des recettes en moins. Et c'est ce qui risque aussi de se passer pour la taxe d'habitation. L'État compensera peut-être l'année N, N plus 1, N plus 2, et après, il y aura un coefficient de minoration. Ensuite, sur la slide suivante, je vous propose de regarder le tableau qui est projeté au niveau de la DGF. Voilà, donc vous voyez qu'en 2012, la commune touchait 150 euros, un peu plus de 150 euros par Lissois. Et aujourd'hui, en 2018, on devrait toucher 64,40 euros par Lissois, soit 42% de baisse. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Mais soit 42%, 73 de baisse. Ce qui fait, au total, au global, si on accumule ces baisses, 780 000 euros de baisse par an dans notre budget. Notre commune n'est pas une ville riche, mais elle est riche de ses services publics décidés par les élus d'hier et d'aujourd'hui. Ces services fonctionnent et sont vivants grâce à un personnel municipal compétent et dévoué. Oui, même s'il est maintenant à la mode dans le nouveau monde de taper sur les fonctionnaires, nous avons la chance d'avoir ces services publics, ces agents. Le graphique projeté montre que les dépenses de personnel représentent environ 60% de la masse salariale. Quelles en sont les raisons ? La première, c'est le volontarisme de la municipalité dans l'offre de services publics. On parlait des écoles, mais nous, à Lissé-Lannoy, nous mettons à disposition une ATSEM par classe. La loi n'impose qu'à une ATSEM par école. Donc, nous avons 14 classes, donc 14 personnes que nous rémunérons. La loi nous en oblige qu'à 11, à 3, pardon. Donc il y a un différentiel de 11 personnes. Et ça pour l'apprentissage des tout-petits. Et après on veut nous supprimer des enseignants, mais nous on fait l'effort de mettre du personnel. Et je ne pense pas que les villes qui vont profiter des mesures des REP ont la même politique. Nous avons aussi une police municipale, la loi ne nous impose pas. Nous avons une cuisine centrale, nous pourrions déléguer ça au privé. Et ces dépenses de cantine seraient sur un autre compte. Donc ce serait un simple jeu d'écriture et ce serait en charge et pas en personnel. Donc le ratio de personnel serait moins important. Il y a tellement de services non obligatoires et pourtant tellement importants pour la vie d'une commune. Nous avons aussi, depuis le 1er janvier 2017, le MACRAM, la pépinière, qui est à son rythme de croisière depuis septembre 2017. Encore un service public non obligatoire que nous assumons. Et hormis le service de police municipale, où notre objectif est d'arriver à un effectif de 8, aucun recrutement n'est prévu. Les départs en retraite ne seront pas nécessairement remplacés. Le 31 décembre 2017, la dette était de 8 693 657 euros. La dette communale est stable. Pour 2018, l'endettement devrait augmenter car le projet Paul Bert va commencer à sortir de terre. Mais je vais y revenir. Concernant la structure de la dette, nous n'avons pas d'emprunt toxique. La quasi-totalité de nos emprunts sont à taux fixe. Je pense que le terme de taux fixe est important pour notre collectivité. Le taux variable, c'est une incertitude. La diapo suivante est celle que les Lissois attendent, c'est celle de nos recettes. Donc avant que vous puissiez terminer la lecture de ce diapo, c'est l'annonce la plus importante du conseil municipal, ce n'est pas normalement, c'est l'annonce la plus importante du conseil municipal. Nous n'augmenterons pas les taux d'imposition pour l'année 2018. Les bases ont été réévaluées par le Parlement à 1,2%. Le FPIC, donc c'est un fonds qui reste équivalent. La CAF, alors je souhaite aussi mettre en avant la CAF parce que c'est un partenaire qui est au quotidien avec nous, que ce soit pour l'investissement ou le fonctionnement. il y a peut-être une petite source d'inquiétude parce que les négociations qui sont en cours avec l'UNCAF, donc la structure nationale des CAF, et le gouvernement, la crainte ne vient pas de la CAF, mais vient du gouvernement qui aime bien tirer sur les services publics qui sont rendus chaque jour aux Français et donc aux Niçois. Nous avons aussi une baisse des recettes avec la suppression des contrats aidés, mais ça, je l'ai évoqué. J'ai oublié tout de même de préciser une chose, c'est qu'il est indiqué sur le diapo la possibilité d'augmenter les tarifs. On ne souhaite pas augmenter les tarifs de cantine, de garderie, enfin tous les services publics. La seule chose, c'est qu'il y a la création d'un tarif pour des activités qui sont faites pour les jeunes de 14 à 17 ans. Mais sinon, on n'a pas l'objectif d'augmenter ni les tarifs de cantine, ni aujourd'hui, comme le gouvernement tape sur les familles, on souhaite protéger le pouvoir d'achat des familles. Vous voyez donc sur la diapo suivante encore le graphique de la baisse de la DGF. Si depuis 2014, donc c'est pas le même chiffre que j'ai donné tout à l'heure, mais si depuis 2014 nous avions dû augmenter les impôts à la même mesure de la baisse de la DGF, nous aurions dû augmenter les impôts de 12%. Nous avons préféré faire des économies dans les services plutôt que de prendre dans la poche de l'histoire. Imaginez-vous 12% de supplémentaires. Bon, c'est sûr que je parle à des convaincus, mais j'aurais bien aimé avoir justement les réponses de l'opposition parce que tape beaucoup sur ce qu'on fait, mais il n'y a jamais de solution en face. Et d'ailleurs, il suffit encore une fois le débat sur les finances communales. Comment se décompenseront nos recettes ? Donc 68% de nos recettes en 2018 seront de l'ordre de l'imposition. Donc 20% ce seront des dotations et 6,30% des recettes diverses. Donc c'est surtout la participation des familles aux services, donc les cantines, les AESH et ainsi que des services qui sont d'autres services. Ensuite on a 4,12, on a un excédent donc, qui est affiché, donc c'est la partie en jaune. 4,92% de nos recettes de cette année, ce sera l'excédent de l'année dernière, 697 000 euros. C'est la maîtrise, en fait, c'est le résultat de la maîtrise des dépenses de fonctionnement de l'année dernière. Nous n'avons pas dépensé à tort et à travers, ce qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre et donc de pouvoir voir l'année 2018 sereinement. Nous estimons donc au niveau des dépenses que nos dépenses de fonctionnement seront inférieures à 13 millions d'euros. Par rapport à 2017, nous diminuons les dépenses réellement de 0,50%. Le premier poste de dépenses reste le personnel, 60% de la masse. Ensuite, les charges à caractère général, un peu moins du quart de nos dépenses. Les subventions représentent quant à elles 15% des dépenses. Je pense que tout le monde est clair également. Donc sur la diapositive suivante, vous voyez que les dépenses de personnel entre 2012 et 2018 en BP et pas en CA sont en constante augmentation. L'explication vient de l'augmentation des traitements et non de l'augmentation du nombre de personnel, car nous avons au 31 décembre 2017 178 équivalents temps plein pour 200 agents et en décembre 2013 nous avions 176 équivalents temps plein pour 194 agents, titulaires et non titulaires compris, donc on reste sur la même masse d'agents. Mais je tiens tout de même à rappeler qu'en CA 2016, pour la première fois dans l'histoire des finances communales, le total des traitements des agents a été inférieur à l'année précédente. Donc on a quand même réussi à maîtriser, les coûts de personnel. Comme vous le voyez, les dépenses réelles de fonctionnement affichent une baisse de 1,51% à l'écran. Et comme je l'évoquais juste avant, en réalité, elles ne sont que de 0,50%, car le différentiel, c'est un jeu d'écriture qui nous est imposé par l'État avec la contribution au redressement des finances publiques. C'est le gouvernement qui nous a donné 100 et qui nous a repris 100. Donc, en fait, ça a gonflé artificiellement nos dépenses. Les dépenses à caractère général affichent une diminution de presque 2,5%. Pour les dépenses de personnel, une hausse de 1% est prévue du fait des évolutions de carrière, la hausse du SMIC. Nous conserverons cette année les services destinés aux Lissois et nous allons d'ailleurs développer les temps d'activité pour les jeunes de 14 à 17 ans, donc ce que j'ai évoqué avec la création du tarif pour les activités, donc c'est-à-dire Donc, quelles sont les priorités de la commune? Donc, la première, je l'ai citée, c'est la non-augmentation des taux d'imposition, mais c'est aussi la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement afin de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour l'investissement. La priorité du mandat est toujours la sécurité de la commune, la sécurisation de la commune, c'est ce que nous avons toujours. C'est pour ça que nous avons toujours la volonté d'avoir un effectif de police amené à 8 agents. Il y a certaines personnes qui écrivent dans les journaux municipaux que nous avons renoncé à cette promesse, nous ne l'avons pas renoncé, c'est juste que les recrutements sont en cours, et la continuation du déploiement d'un réseau de vidéoprotection et de surveillance. La liste des investissements va vous être proposée sur la diapo suivante. Donc nous prévoyons à environ 3 500 000 euros d'investissement cette année. La première en valeur et en importance, je pense que tous les conseillers municipaux vont être d'accord, c'est le financement du site Paul Bert, de la cuisine centrale, du réfectoire et de la maternelle. Nous prévoyons donc cette année 1 800 000 euros sur ce projet. Nous allons aussi agir sur la salle de Lagrange qui a bien besoin de cette réfection. Elle est affectée aux associations sportives, mais durant la semaine, elle est principalement mise à disposition au collège Gambetta. Nos investissements sont aussi tournés vers les jeunes collégiens. Donc on a beaucoup d'investissements qui sont faits auprès pour les enfants et là pour un public donc de collégiens qui correspond à peu près à 11, 14, 15 ans. Nous allons aussi refaire le balcon de l'Éden. Une barrière automatique permettra enfin de sécuriser l'entrée du parc Maréchal. Donc la liste est présentée à l'écran. Mais je souhaite aussi insister sur l'investissement qui a fait rire l'année dernière l'opposition, c'est la rénovation des sanitaires des écoles, parce qu'il y en a qui aiment bien faire du théâtre. Bon, ben, je vais encore vouloir faire un monologue, personne ne va me répondre, ne va contester, parce que la majorité est sensible à cette question. C'est la rénovation des sanitaires des écoles. Oui, parce que l'année dernière, on a proposé la rénovation des sanitaires des écoles, et l'opposition a dit que ce n'était pas une priorité, qu'on avait peut-être autre chose à faire. L'an dernier, on a voté pour les sanitaires de l'école Marie Curie, l'école élémentaire Paul Bert et Anatole France. Nous avons donc découpé ces tranches, donc deux tranches. La première tranche, donc en 2017, ceux de Marie Curie ont été entièrement refaits pour la première fois depuis l'ouverture de l'école dans les années 60. Donc c'était les toilettes d'origine qui étaient dans l'école Marie Curie qui étaient ouvertes dans les années 60. Et les toilettes d'origine dans l'école de l'école Anatole France, construite avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, nous allons refaire les sanitaires de l'école élémentaire Paul Bert, sanitaires jamais refaits depuis la fin des années 60. Voilà. Et entre-temps, parce que des gens qui ont ricané, qui aujourd'hui ont adhéré En Marche, c'est dommage, j'ai pas pu leur dire, mais entre-temps, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, pour ne pas le citer, lors d'une émission sur France 2, a déclaré que la réfection des sanitaires était importante pour les établissements scolaires. Les toilettes font partie des conditions d'accueil au même titre que la restauration municipale. Nous avons donc devancé les dires du ministre. Nous espérons aussi avoir donc une attention particulière de l'État sur cette question, vu que c'est une priorité du ministre. Une nouvelle liste est présentée normalement ensuite. Donc nous continuerons d'investir pour les caméras de vidéosurveillance, je l'ai déjà dit. Nous continuerons la mise en place des bâtiments communaux, la mise en norme des bâtiments communaux. Un gros travail a été fait et nous aurons tout programmé pour la fin du mandat sur l'accessibilité des bâtiments communaux. Nous continuerons la rénovation de l'éclairage public. Et enfin, cette année, nous allons remplacer les deux véhicules de la police municipale et sans doute les utilitaires des ateliers municipaux qui commencent à avoir... Et enfin, à l'écran, vous voyez le BPI glissant. Nous garderons le même cap et Vous pouvez voir que le projet Paul Bert occupe une bonne partie des investissements sur le BPI. Et pour la compréhension de tous, nous avons changé la vision du BPI, c'est-à-dire que l'on ne le fait plus par opération, on le fait par site. Parce qu'en même, il y a des opérations toiture, donc il faut avoir la salle des milliers, l'école Marie Curie. Maintenant, on fait par site pour avoir une investissements qui sont faits par bâtiment. Et je vais aussi faire plaisir à Madame Lannick, après accord de Monsieur le maire, un une provision est faite pour le budget 2020 sur la rénovation des terrasses synthétiques au stade Jean Chol. Voilà. Donc je pense aussi que c'est une annonce qui est très importante pour le sport lissois et pour les petits lissois qui fréquentent cette établissement. Enfin bon. Donc, il n'y a pas de vote pour cette question. Pour tout vous dire, vu qu'il y a encore des personnes dans la salle qui ne sont pas du public, j'avais même préparé une liste de questions que l'opposition pouvait me proposer et que j'allais me poser, mais je pense que je vais le réserver pour le budget parce que je n'ai pas de questions lors des commissions, et là, ils sont encore une fois absents. Je pense que vous avez raison, monsieur le maire, c'est un projet, c'est au-delà de cette année, c'est au-delà du mandat, c'est un projet qui n'a jamais été fait. Je pense que si on devait remonter à une opération aussi importante pour les finances de la commune, il faut remonter au moins du temps de monsieur Desmulliez quand il y a eu la création de la zone industrielle. Il y a eu énormément d'emprunts qui ont été contractés par la ville à cette époque pour créer de grosses infrastructures. Donc, comme vous l'avez dit, il faut bien expliquer pourquoi nous ne faisons pas tout d'un coup. Tout le monde pense, enfin, à première vue, on pourrait penser que faire d'un coup, ça permet de gagner du temps et de l'argent. Mais dans un premier temps, souscrire un emprunt de 9 millions d'euros, c'est plus que doubler notre dette. Et donc, ce n'est pas possible qu'une seule banque nous prête cette somme d'un coup. Il faut quand même être réaliste. C'est quand même la proposition qui a été faite par l'opposition de souscrire 9 millions demain. 9 millions, c'est doubler notre dette. Effectuer un emprunt de cette hauteur, donc comme il avait demandé en 2017, on a pu faire les calculs et j'en remercie les services. Un emprunt de 9 millions ajouté aux emprunts que nous avons déjà, c'est trouver plus de 600 000 euros dans les caisses de la commune. Il faut rembourser 400 000 euros de capital et 200 000 euros d'intérêt. Donc, vu que le choix du projet a été unanime, mais pas sur l'échéancier, je vais vous expliquer plus précisément. La responsabilité de l'opposition, s'il avait été au pouvoir, c'était 10% d'augmentation d'impôts cette année, et ce, pour 4 ans. Parce qu'il fallait trouver 600 000 euros. 600 000 euros, c'est 10 points d'impôt. Un point d'impôt, ça représente environ 60 000 euros de recettes. Donc je pense que là, c'est clair, c'est dommage qu'ils ne soient pas là parce que j'aurais bien aimé leur présenter. Je pense que tout le monde le sait. Mais non, mais c'est pour aussi expliquer à tout le monde ça et aussi dire qu'il faut arrêter de dire des mensonges. Concernant aussi ce projet, on parle de 9 millions de dépenses. Mais comme vous le savez, on récupère une partie des dépenses à N plus 1 via le fonds de compensation de la TVA. C'est-à-dire qu'on dépense cette année, en 2018, 100, on récupère une partie en 2019 et ainsi de suite. Jusqu'en 2023. Donc, au niveau du FCTVA, on est en dessous de 20% de recettes. On est plus sur du 16,404. Donc on est un peu moins de 16,5%. Cet étalement, donc, de projet, ça nous permet de ventiler donc les dépenses, mais aussi de ventiler nos recettes. Et donc, il y a 1 million de recettes qui viennent, en fait, de fonds de roulement qui alimentent le projet. C'est-à-dire qu'un projet qui coûte 9 millions, en réalité, il ne coûte déjà que 8 millions en étalant dans le temps. Ce qui nous permet aussi, et ça, c'est pas négligeable, l'étalement, c'est de bien pouvoir monter nos dossiers de subvention. permet de pouvoir aller taper à plusieurs portes et de manière construite et très rigoureuse. Cinquièmement, un sujet qui est aussi, bien que pour moi c'est impossible d'emprunter 9 millions d'euros d'un coup à une banque, notre capacité de désendettement aurait dépassé les 12 ans. C'est-à-dire qu'on aurait dépassé les critères qui sont maintenant fixés par l'État pour les grosses communes. Donc on a encore une fois échoué le bon choix sur cette opération. Et en ne faisant pas cette opération sur une seule année, ça nous permet d'être en dessous ou avoisiner les 8 ans de capacité de désendettement, c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous du seuil d'alerte. Et enfin, une chose très importante, parce que si on empruntait 9 millions, donc 600 000 euros de recettes à trouver en plus, 10% d'impôts, on ne pouvait faire aucun investissement courant plus. C'est-à-dire que arrêt du déploiement des caméras, arrêt de rénovation des bâtiments, arrêt du plan sur l'accessibilité du handicap, enfin, arrêt d'énormément de choses, d'acquisition de matériel. Donc il faut être sérieux. Donc nous affirmons avoir fait.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut considérer que le débat a eu lieu? Donc on doit voter pour savoir si le débat a eu lieu.
Le débat a été confirmé par 23 voix.